Fréquence protestante, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Penser avec la fiction. Bonjour à toutes et tous. La fiction et les séries en particulier sont éminemment démocratiques, au sens où elles sont facilement accessibles et qu'elles génèrent une activité, disons, citoyenne autour d'elles. La création de fan clubs, de fan art, de sites dédiés et des interpellations de showrunners quand la série paraît s'éloigner de son esprit originel. On l'a vu encore récemment avec la dernière saison de Game of Thrones que certains amateurs voulaient voir entièrement réécrite. Ces phénomènes sont loin d'être anecdotiques car ils disent à quel point on peut adresser désormais des questions aux séries et on peut constater qu'elles y répondent. Si la fiction nous regarde, elle peut aussi nous parler. Elle nous permet de penser, voire de transformer notre manière même de penser. Il y a donc une pensée de la fiction, une pensée par la fiction, initiée par elle et chaque jour recommencée. La fiction nous autorise à analyser le monde dont nous sommes contemporains, mais elle fait encore plus. Par son expérience égalitaire, elle redonne du pouvoir aux individus. Les séries, c'est la vraie démocratie participative tant attendue. Cela fait longtemps donc que la fiction n'est plus assimilée au divertissement ou à une propagande idéologique qui ne dirait pas son nom. Non seulement les œuvres fictionnelles fabriquent une culture partagée, comme peut l'être le football et les matchs visionnés collectivement, mais elles font partie de notre biographie individuelle. Nous pouvons ainsi expérimenter régulièrement la nostalgie ou le frisson de voir à nouveau des images qui ont été constitutives de notre être. Alors comment les séries peuvent-elles changer notre monde intérieur? Je vais poser cette question à mes deux invités. Bonjour Sandra Logier.
Bonjour.
Sandra Logier, vous êtes professeure de philosophie à l'Université Paris 1, membre du prestigieux Institut Universitaire de France et par ailleurs chroniqueuse pour Libération. Vous êtes spécialiste de la culture dite ordinaire, des questions féministes et des séries. Je vous reçois aujourd'hui pour votre dernier livre, Nos vies en série, philosophie morale d'une culture populaire. C'est paru chez Climat en 2019. Bonjour Gilles Verviche.
Bonjour.
Gilles Verviche, vous êtes agrégé de philosophie, enseignant en lycée. On a pu vous voir aussi comme chroniqueur dans divers médias. Vous vous intéressez à la culture populaire et je vous ai invité aujourd'hui pour votre ouvrage qui s'intitule Star Wars, le retour de la philo aux éditions Le Passeur, qui est sorti en 2019. Entre temps, vous avez publié, vous venez d'écrire chez Flammarion, Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi.
Tout à fait.
Bon, il faut écouter Fréquence protestante, mais je suis sûr que vous avez pas mal de propositions aussi pour vos auteurs. Alors, tous les deux, racontez-nous, on peut commencer peut-être par Sandra Logier, cette démarche consistant à aller s'occuper des séries.
Alors, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est venu d'abord de mon intérêt pour le cinéma populaire, hein, puisque c'est vrai que les films à grand public sont parfois négligés, en tout cas l'été peut-être traditionnellement par la critique et par la philosophie. Et pour ma part, alors sur... peut-être le conseil de Stanley Cavell, qui est un philosophe américain qui a écrit sur le cinéma populaire hein, dans un livre qui est devenu une sorte de best-seller, curieusement, qui s'appelle « À la recherche du bonheur », qui étudiait des grandes comédies des années 30 et 40 pour montrer en fait leur enseignement philosophique, hein, en quoi vraiment ces livres produisaient, comme vous le disiez, hein, n'étaient pas seulement des exemples, mais produisaient de la pensée. Donc à la suite de ce travail sur le cinéma, j'ai décidé en fait de m'intéresser aux séries télévisées avec la même approche et le même respect de l'œuvre qui était celui qu'avait Stanley Cavell pour les grands films de Hollywood. À cela s'est ajouté le fait plus autobiographique aussi que j'ai regardé des séries, peut-être depuis 50 ans.
depuis voilà. La croisière s'amuse et voilà, Starsky et Hutch à la télé française.
Voilà, avec effectivement toutes ces séries qui passaient hein, en France, hein, donc très tôt, avec par exemple Columbo, qui est quand même un grand classique qui nous a tous formés à la vision des séries. Je me suis aussi rendu compte, peut-être avec le temps, à quel point ces séries faisaient partie de ma vie, m'avaient constitué tel que je suis. Hein. Je crois qu'on est vraiment tous un peu, enfin, tous ici, en tout cas, dans cette situation. Donc cette formation quasiment autobiographique par les séries, c'est-à-dire qu'on se rappelle les moments de sa vie par les séries qu'on a vues à cette époque, etc. Donc ces deux choses ensemble, finalement, hein, donc la prise au sérieux de la culture populaire et puis la place des séries dans nos vies, c'est cela qui m'a décidé à vraiment écrire sur les séries, bien que ça ne soit pas, comme vous le savez bien, un sujet qui est toujours respecté des philosophes et des critiques de cinéma, par exemple.
On va en parler. Gilles Verviche, alors Star Wars et puis plein d'autres œuvres de fiction.
Oui, Columbo, moi, évidemment aussi. Hein, je viens de préparer un article.
Il y a des choses qui se préparent pour une prochaine revue.
Sur Columbo, effectivement, j'ai l'intégrale chez moi. Hein, voilà. Ma série préférée, moi, c'est Les Sopranos, qui a été mal diffusée en France, mais qui me paraît être vraiment la meilleure série qu'on ait jamais faite, voilà, qui a pas pu faire autre chose après d'ailleurs, tellement il avait, une fois qu'on a fait ça, on a du mal à faire autre chose. Alors effectivement, il y a tellement de choses intéressantes là qui sont dites, qui ont été dites. Alors je crois savoir que Cavill, à l'époque d'ailleurs, il s'était un peu fait mal voir, on s'était moqué de lui, hein, les
Exactement.
Collègues lui disent, qu'est-ce que tu fais, un prof de philo ne peut pas parler de films de cinéma. Alors moi, depuis, avec mes élèves de terminale, j'ai, pour le chapitre sur le bonheur, je leur montre justement It's a Wonderful Life, La vie est belle de Capra. Je trouve que c'est en plus un modèle de comédie américaine qui a été pouillé par toutes les autres comédies américaines, hein, avec le côté voilà. Star Wars, bah c'est un peu comme Sandra Logier. Je me suis rendu compte, j'ai commencé la philosophie peut-être en fin de troisième, parce que je faisais du grec au collège et on avait traduit un passage du Phédon de Platon. J'allais dire justement que penser avec des fictions, finalement, ça remonte un peu à Platon, puisque il appelait ça mutos à l'époque, c'était de la fiction, et lui qui a beau taper sur Homère, hein, c'était la pop culture de l'époque, hein, c'est vrai. Aujourd'hui, Homère, il est respecté comme la... C'est marrant parce que Homère... Enfin, c'est marrant, hein, ça fait vraiment... émission culturelle, c'est marrant parce que Homère, voilà. Mais c'est vrai que Homère aujourd'hui, c'est vraiment le classique qu'on va lire dans des trucs les plus poussiéreux du monde. Il faut voir Platon comment il... Il lui tape dessus, quoi. Il dit, oui, Homer, c'est bien, mais ceci, il n'arrête pas de le reprocher. Effectivement, Platon utilise le mythe, la fiction, pour faire penser, parce qu'il pense que c'est plus populaire, que ça va mieux faire passer les choses. Et donc, j'ai commencé en troisième, et puis j'ai commencé Star Wars à 10 ans. Enfin, je veux dire, je me souviens, j'habitais dans la campagne rouennaise, j'ai déménagé à Rouen, et puis là, en 84, j'ai vu Le Retour du Jedi. C'est le premier que j'ai pu voir au cinéma, en fait. Hein. Et les autres...
Le premier de 1977,
j'étais un peu jeune. Voilà, je me souviens que mon grand frère...
Moi, je les ai vus.
Ouais, voilà. Moi, je me souviens que mon grand frère a été voir l'Empire Contre-Attaque, parce qu'il a 3 ans et demi de plus que moi. Il nous avait raconté ça dans la cuisine. Donc moi, les Star Wars, j'étais surtout découvert d'abord à la télé... En VHS, et on était une bande de copains et tout ça. Et effectivement, je connais tous les dialogues par cœur, dans toutes les langues que vous voulez. Je suis habité par ça. Et il m'est arrivé au bout d'un moment là de faire de la philosophie, d'écrire un peu. À un moment, je me suis dit, on va réunir les deux. Ça me parle. Pourquoi ça me parle? Ce que j'avais dit à l'éditeur en allant le voir. Je lui ai dit, c'est tellement populaire, il peut pas y avoir rien derrière.
Oui, si ça marche. Alors restons sur ça. L'idée aussi était de dire la culture populaire n'est pas méprisable, elle charrie des choses qui sont extrêmement importantes, et la mépriser serait se placer, c'est ce que vous écrivez, hein, Sandra Logier, dans une position surplombante et dans une position méprisante.
Je crois qu'il y a vraiment une forme de préjugé par rapport à la culture populaire que j'ai analysée. Ailleurs, d'ailleurs, dans des livres sur la démocratie, comme peut-être quelque chose qui est une sorte de mépris du public et du peuple, qui est voilà, considéré comme ayant des goûts paresseux et voulant voir ce qui est le plus facile, le plus accessible. Et je crois que l'important de Stanley Cavell, c'est vraiment d'avoir montré à quel point cette culture populaire, qui est quelque chose de très large, puisque ça inclut en effet des films populaires, ça inclut les séries télévisées, mais ça inclut aussi la musique, par exemple, la musique populaire, et maintenant peut-être toutes sortes de nouveaux éléments qu'on trouve sur Internet. Et par exemple, les jeux vidéo, auxquels je ne m'intéresse absolument pas, mais je pense que ça en fait partie.
Moi, oui.
On va pas le lancer là-dessus. En tout cas, il me semble que ce rapport à la culture populaire est quelque chose qui est extrêmement difficile en fait à consolider, parce que il y a toujours cette idée malgré tout de la culture comme élément de distinction, avec cette mystique de l'œuvre unique de l'auteur, l'auteur des œuvres, auteur qui est toujours masculin en général d'ailleurs, donc ça a beaucoup changé avec les séries télévisées, et donc du coup il y a vraiment cette méfiance vraiment bien installée de la philosophie pour cette culture-là. J'ai toujours cité ce que dit Stanley Cavell, qui est, on lui demandait, mais comment un professeur de philosophie, grand professeur à Harvard, peut s'intéresser au cinéma de Hollywood, c'est-à-dire des films, en plus des comédies, donc avec Cary Grant, Katharine Hepburn, qui pour nous sont des grands classiques, mais qui aux États-Unis sont pas toujours prises au sérieux. Ça vous montre
comment aujourd'hui on relativise.
Peut-être plus maintenant, mais à l'époque où il a écrit La Recherche du Bonheur, dans les années 80, il a été quand même très critiqué. Il disait, la question, en tout cas, c'est l'inverse. C'est pourquoi, donc, quelqu'un qui a été élevé avec des films, avec des séries, donc, finalement, a trouvé dans la philosophie quelque chose qui répond à cette vie-là, à cette appétence-là. Et je crois que c'est très important. C'est-à-dire que la culture populaire, elle répond vraiment à cette forme de vie que nous avons et que beaucoup de gens ont, et qui vraiment représente une véritable pensée, une réflexion. Ensuite, ces œuvres-là, c'est vrai qu'on a toujours tendance à faire cette hiérarchie. Gilles le disait très bien. Les films dont parle Cavell, évidemment, ils sont vraiment respectés en France par des critiques de cinéma, d'ailleurs vraiment depuis toujours, mais qui vont dire que les amateurs de séries sont des idiots, etc. Ensuite, évidemment, maintenant, les mêmes critiques à peu près vont dire les Sopranos, c'est vraiment une grande œuvre, The Wire, donc là, vraiment, les séries ont reçu leur lettre de noblesse à ce moment-là et vont mépriser Game of Thrones ou Buffy. Donc, en fait, il y a toujours ce besoin de hiérarchisation qui, finalement, ne fait pas confiance au spectateur. Et c'est ça, en fait, qui m'intéresse, c'est comment le spectateur, la spectatrice va avoir une sorte d'autorité sur son expérience, sur sa culture, et que c'est cela, en fait, que la culture populaire nous donne, et je crois que ça inclut les séries, mais aussi, évidemment, des grandes œuvres populaires comme Star Wars. Je les mets sur le même plan.
On va écouter un petit extrait en VF du dialogue entre Yoda et Luke quand brûlent les livres de la sagesse Jedi, c'est dans Les Derniers Jedi.
Ah, Skywalker, mon Kijma.
Le temps est donc venu d'en finir avec les Jedi.
Venu est le temps. Pour toi, de voir plus loin. Mais cette bibliothèque ne recelait rien que la jeune Rey ne possède déjà. Skywalker, le regard tourné vers l'horizon encore, jamais ici, maintenant. Ce que tu cherches devant ton nez.
J'étais faible. Impulsif.
Perdu Ben Solo, tu as. Perdre Rey, nous ne devons pas.
Je ne serai jamais ce qu'elle veut que je sois. Je ne peux pas.
Compte de ce que je dis. Tu ne tiens donc pas. Transmets ce que tu as appris. La puissance, la maîtrise. Mais la faiblesse, les folies, Les échecs aussi, oui, l'échec surtout. Le meilleur des maîtres, c'est l'échec.
La valeur de l'homme, fréquence protestante, pensée avec la fiction. Nous sommes avec Sandra Laugier et Gilles Verviche. Alors, Gilles Verviche, un extrait de Star Wars, c'est pour vous.
Ouais.
L'échec, ou on peut parler de d'autre chose, hein, mais ouais. Ici, disons que la figure de Yoda est quand même une figure marquante du maître philosophe.
Oui, alors en écoutant l'extrait, je pensais aussi que la musique était pour beaucoup quand même dans l'intérêt de Star Wars. J'avais pu faire qu'un paragraphe sur la musique, j'ai du mal à penser la musique, il y a des gens qui font ça très bien, mais effectivement, quand le phénomène de fan, je sais pas si vous êtes allé à une séance de fan, quand tout le monde est habillé et costumé, quand le générique commence, il y a un génie de John Williams quand même, qui est pour beaucoup, hein, d'ailleurs, George Lucas racontait que la première version qu'il avait diffusée à ses producteurs et à ses co-réalisateurs, c'était affligeant, il y avait pas de, le montage n'était pas encore fini, il y avait surtout pas de musique, et il paraît que c'était, tout le monde est sorti dedans en disant, mais qu'est-ce qu'il nous a fait, c'est quoi cette daube, quoi. Voilà, donc la musique, c'est quand même énorme. Alors, effectivement, Yoda, figure philosophique par excellence. Alors, l'échec, bon, j'ai une de mes connaissances de fac, un bon copain qui a écrit un fameux Les Vertus de l'échec. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai parlé de la réussite.
La réussite,
plutôt du mirage du mérite et de la méritocratie. Donc, la méritocratie permet d'expliquer aux gens qu'on réussit que c'est grâce à eux et que ceux qui ont raté, c'est de leur faute. Donc voilà, bon là, effectivement, voilà. Après, bon, le discours, l'échec nous aide à avancer. Bon, c'est un peu cliché. Et puis, ça fait un peu les mêmes de développement personnel, là, hein, voilà. Ce qui compte, c'est pas de tomber, c'est comment on se relève. Enfin voilà, c'est toujours facile. Voilà, moi, j'ai tendance à dire que le nombre de livres qui nous a donne le secret de la réussite et du bonheur, on se demande comment il y a encore des gens malheureux vu que il y a tout ce que vous voulez qui se vendent, voilà. Mais il y a des choses intéressantes chez Yoda. Alors moi, au départ, je suis allé chercher Star Wars en me disant je vais faire de la pop philo entre guillemets telle que je la définis, c'est-à-dire partir de culture populaire justement pour essayer de faire entrer la pensée philosophique, ce qui est l'inverse d'ailleurs de ce qu'on appelle la vulgarisation, hein. La vulgarisation, ça consiste à simplifier, à schématiser, à diluer de la pensée philosophique pour la rendre plus simpliste et aller chercher le bas peuple qui n'y comprend rien. Alors que l'ambition de la pop philosophie, me semble-t-il, telle que moi j'ai essayé de le faire, c'est de prendre justement une culture commune, aller chercher les gens là où ils sont pour s'élever au fur et à mesure vers des choses de plus en plus abstraites qui auraient paru comme telles si on les avait balancées d'un coup. Voilà. Donc, au départ, je m'étais dit, je vais faire ça. Et puis, effectivement, quand on voit une figure comme Yoda et même Obi-Wan Kenobi, entendez le nom, hein, il y a quand même des accents très orientaux, je me suis dit, je vais pas pouvoir comme ça faire que de la philo occidentale à deux balles, quoi. Voilà. Donc, c'est là que moi, j'ai bien aimé écrire ce livre, ces deux livres, parce que j'ai fait des découvertes en philosophie orientale à laquelle je connaissais rien du tout. Voilà. Yoda, j'ai appris qu'il y avait un maître bouddhiste chinois qui s'appelait Yoka au 5e siècle. Il est inspiré expressément des héros de Akira Kurosawa. Obi-Wan Kenobi a des accents forcément japonais. J'explique dans le livre comment en fait le terme de Jedi, en regardant une jaquette d'un film de Akira Kurosawa, en fait c'est du japonais. Jedi en japonais, c'est l'époque, en fait. Jedi Geki, c'est le film d'époque ou l'œuvre d'époque, qui est en fait une œuvre de samouraï. Et donc un chevalier Jedi Geki, c'est un chevalier samouraï. Voilà, donc là il fallait pas rester à Sartre et Descartes. Justement, j'ai fait un chapitre en quoi c'est pas cartésien, quoi. Comment philosopher au sabre, c'est pas du tout philosopher comme Descartes. J'ai fait l'inverse, parce qu'on est dans une pensée qui est plutôt, tous les films le répètent, le feeling, l'appel toujours au feeling, donc on est plutôt oriental, peut-être anglais, hein, chez Hume, qui repose tout sur le feeling, mais on est beaucoup sur ne pas penser, pas cogiter, etc., etc. Après, il y a des belles phrases, hein, de Yoda. J'ai fait un chapitre sur « Personne par la guerre ne devient grand », en montrant qu'il se trompe un peu. Enfin, voilà. Bon, bref, c'est des phrases qui parlent. Donc, plutôt un maître de philosophie orientale quand même, ce qui fait aller chercher un peu hors des sentiers battus de moi.
Sandra Laugier.
Je suis aussi extrêmement fan de Star Wars et j'apprécie beaucoup cette attention à tous les détails, hein, de cette œuvre qui est vraiment une œuvre de pensée extrêmement riche, en effet, et qui a ce côté totalisant et multiculturel. Hein. C'est vrai qu'il y a des cultures, voilà, il y a des cultures vraiment mondiales, des personnages d'ailleurs aussi très divers. Hein. Donc c'est vraiment aussi un appel politique à la diversité culturelle qu'on a constamment dans toutes ces scènes de Star Wars, où on a toutes sortes de personnages
extraterrestres.
Il y a un côté profondément démocratique, et je crois que ce qui est vraiment aussi crucial dans Star Wars, et vous le disiez à propos de la musique, hein, c'est vraiment une expérience, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit en fait dans l'expérience de chacun, et c'est aussi pour cela que ça compte autant, hein, et qu'il y a cette expérience partagée, que ce soit en salle. Hein. C'est vrai que c'est vraiment extraordinaire de voir ces films en salle. Ouais. Donc, ça montre que malgré l'emprise des séries, l'expérience de partager ce moment ensemble en salle reste crucial. Et je crois que ce qui est aussi très, très frappant dans Star Wars, hein, vous le montrez très bien, c'est à quel point les personnages et le fait qu'on va s'attacher à des personnages, qu'on est tout content donc de retrouver Han Solo dans la dernière trilogie, même si ça dure pas assez longtemps. Enfin, il y a cette espèce de continuité affective, hein, c'est vraiment les sentiments. Donc, il y a cet attachement aux personnages et qui, malgré tout, fait de Star Wars quelque chose qui, même si c'est très cinématographique, ressemble à une série dans le mode de réception, parce qu'il y a, ben, il y a des épisodes, c'est vraiment sur une très longue durée, beaucoup plus que beaucoup de séries. Et donc, je crois qu'il y a malgré tout une très grande proximité, même si l'ambition de Star Wars est plus grande, hein, et que vraiment Star Wars fait vraiment partie d'une sorte de culture partagée mondiale, malgré tout, qu'on n'a plus, qu'on avait avec certains grands films de Hollywood. Ben, vous parliez de La vie est belle. Donc, New York, Miami, qui étaient des films vus partout, non seulement aux États-Unis, mais et en fait, qu'est-ce qu'il y a maintenant comme films qui ont cette popularité-là, qui donc peuvent vraiment susciter un partage très large des valeurs. Donc, qu'est-ce que vous avez l'équivalent, peut-être depuis Gladiator, peut-être Titanic, mais c'est vraiment quasiment au tournant des. Oui, mais là, on est dans les. Alors, avec les Avengers, on est vraiment dans les Marvel, des super-héros. C'est pas la même chose. Et je crois que c'est pas aussi partagé. C'est quand même surtout une dernière génération. Oui, c'est plutôt. Je ne veux pas dire les jeunes parce que ça paraît un peu. Je ne suis pas sûre que des gens de ma génération ou mes parents iraient voir les Avengers, alors que Star Wars, ça fait partie vraiment de ce patrimoine.
Gilles Verviche.
Oui, moi, c'est sur ce que Sandra Logier dit de la culture depuis tout à l'heure, sur la culture populaire ou pas, parce qu'effectivement. J'essaie de définir un peu ce que c'est que la pop culture, en fait. Hein. Il y avait Richard Memto qui avait fait un très bon bouquin à ce sujet. Disons que mon ennemi, c'est Anne Arendt, sur le sujet. Arendt, sur le totalitarisme, c'est génial, voilà. Mais alors, elle a écrit La crise de la culture, qui est sortie en 72. Et alors, c'est elle qui, justement, parle de films avec Audrey Hepburn, hein, en disant, on voudrait nous faire croire que Hamlet est tout aussi divertissant que My Fair Lady, et pourquoi pas tout aussi éducatif. Voilà. En disant que, en opposant la culture, littéralement, et le divertissement, en ayant l'air de... Enfin, j'en parle dans toutes mes préfaces, y compris le dernier, là, de ce passage, de cette crise de la culture de masse. Voilà, il y a quelque chose... Culture de masse. Alors, comme je dis, c'est quoi son critère? C'est que ce qui est culturel dure. Alors, je dis, ce qui est arrivé à My Fair Lady lui donne à la fois tort et raison. Ça lui donne raison parce que son critère de la durée, finalement, fonctionne bien. C'est avec le temps qu'on sait si une œuvre est un classique ou pas. Puis ça lui donne tort par rapport à son jugement personnel de l'époque, où elle a dit ça, c'est juste un divertissement. Mais l'idée de la pop culture, c'est quand même de pas forcément opposer culture et divertissement, ce qui me paraît être sinon un snobisme culturel. Et quand on parlait de culture populaire, effectivement, quand on reproche à Stanley Cavell d'utiliser le cinéma pour faire de la philosophie, on prétend que la philosophie ou d'autres disciplines un peu hautes, qui en fait se définissent par une classe sociale, pourraient utiliser comme matière à penser que des œuvres entre guillemets classiques. Voilà. Ce qui fait quand même une double fermeture pour les gens qui voudraient y aller. D'abord, la philosophie n'est pas réputé facile d'accès. Et donc, en plus, pour y entrer, il faudra avoir lu, en plus, des bouquins qui eux-mêmes sont pas très faciles d'accès. Voilà, donc tu fais doublement pas partie de mon monde. Voilà. Après, ça empêche pas, parce que, voilà, il y avait Taylor aussi, Charles Taylor, un philosophe canadien, dans son fameux multiculturalisme, qui parlait comme ça des débats de ce que c'est que la culture classique ou culture générale dans les universités canadiennes, où on avait dit aux étudiants qu'il fallait une culture générale, et des étudiants qui venaient d'autres pays comme l'Asie ou l'Afrique disaient, mais en quoi est-ce que vous me demandez de lire là, Shakespeare, ou ce serait de la culture générale ou classique, et pourquoi pas mes auteurs de chez moi. Enfin voilà, il y a une sorte de... Voilà, qu'est-ce que c'est que la culture? Qui décrète que ce qu'il lit, lui, c'est une culture générale? Alors je sais que ça fait un peu démago quand je le dis comme ça,
non,
voilà,
mais
c'est vraiment pas ça. Enfin voilà, moi comme... je suis pas, moi aussi, comme tout le monde, j'ai des goûts. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui peut, à un moment, m'énerver dans la pop culture, c'est que, à moi, ce qui vient dérangeant, c'est quand ça devient, cette culture elle-même, un frein, quoi. C'est-à-dire, les gens ont des goûts différents, quand on commence à dire, ah, t'as pas vu ci, t'as pas vu ça, et qu'il y a des gens. Alors, du coup, il y en a qui se révoltent, et qui le font en guise, c'est un peu le renard et les raisins, comme ils l'ont pas vu, ils font comme si c'était exprès, ah ouais, moi, Game of Thrones, j'ai jamais vu, je verrai jamais. Bon, bah, très bien, tant mieux pour toi, tu veux une médaille, enfin, je sais pas, il y en a, ils ont l'air de trouver que c'est bien de pas l'avoir vu. Mais voilà, vraiment, c'est quand même, je veux dire, pourquoi, plutôt que d'aller demander aux gens d'entrer dans des disciplines pas faciles, en leur demandant de lire en plus un truc qui est pas non plus facile, pourquoi se servir de ce qu'ils connaissent déjà, effectivement? Pourquoi décréter? Puis qui décrète que cette culture-là, et voilà, c'est du bon Dieu, quoi, je veux dire, de base, hein, c'est-à-dire, on est juste là en train d'affirmer son goût pour montrer à quelle classe privilégiée on appartient et que les autres sont que des beaufs, quoi, voilà, hein. La pop culture, c'est un peu ça, c'est pouvoir penser ensemble avec des références communes. Ça commence à me déranger quand les références sont plus communes, c'est-à-dire on commence tellement à se spécialiser, voilà, il y en a tellement des séries, donc prenons vraiment les mainstream, celles qui fonctionnent, qui parlent à tout le monde, parce que après il y en a qui vont se jouer les esthètes, les experts de la pop culture, en disant ah, tu connais pas cette série qui est diffusée sur une vague plateforme, il y a 4 épisodes, personne l'a vu, mais lui va te dire que c'est la meilleure série. On retombe sur le snobisme, c'est-à-dire moyen de gens qui l'ont vu, moyen de gens qui connaissent, et plus c'est le truc génial de l'année. Voilà. Alors alors une fois j'ai vu ce débat là avec un copain, je suis un peu long, mais je finis juste sur cette anecdote. Je lui dis, à ton avis, c'est qui le peintre je lui dis le peintre le plus connu, le tableau le plus connu de tous les temps, ça doit être la Joconde. Alors il me sort, vraiment, c'est les tournesols de Van Gogh. Je lui dis, non mais, c'était pour, voilà, le décalage. Je lui dis, tu peux me dire que les tournesols de Van Gogh, c'est mieux peint, c'est nanana, mais pas me dire que le tableau le plus connu du monde, c'est pas la Joconde de... Enfin voilà, là, il n'y a pas de débat, voilà. Et donc, on part de ça, on part de cette culture commune, et on essaye de se comprendre.
L'idée, en tout cas, dans vos deux ouvrages, c'est de prendre au sérieux, on l'a compris, cette philosophie, ou de prendre au sérieux le matériau des séries, hein, les deux en même temps. Sandra Leger, vous expliquez que les séries, au fond, participent de l'éducation morale du citoyen. Comment ça se passe? Quel est le mécanisme?
Alors, c'est un mécanisme qui est lié au fait, hein, comme Gilles le disait, que ces séries sont vues par un très large public. Et c'est pour cela qu'en effet, les séries, on va dire mainstream, donc qui ont eu beaucoup de spectateurs, sont vraiment intéressantes parce que elles se sont vraiment aussi données pour mission, en fait, cette éducation du public. On va pas faire, effectivement, avec une micro-série hyper ciblée, comme il y en a beaucoup maintenant, en effet, sur les plateformes. Et donc, une série comme Urgence, par exemple, qui est quand même vraiment un très, très grand classique, hein, justement, même si elle n'est pas placée au sommet par, maintenant, les amateurs raffinés de séries. C'est vrai qu'elle a constitué vraiment une date dans l'histoire des séries, puisque c'est la première fois qu'on avait une série en prime time qui prenait très directement au sérieux des questions sociales, médicales, des questions sur la pauvreté, sur l'avortement, sur toutes sortes de questions brûlantes, et qui vraiment apportait beaucoup d'informations au public, en plus d'être divertissante, sentimentale, George Clooney, etc. Mais ça fait partie aussi, heureusement, du charme des séries. Et une série comme Buffy contre les vampires, alors qui est apparue un peu plus tard, hein, tournant du siècle, puisque c'est vraiment dans les années 90 et début, et vraiment début du 21e oui, siècle qu'on ça. A les grands événements de l'histoire des séries. Et donc Buffy contre les vampires. Donc, qui était une série apparemment vraiment peu ambitieuse, destinée aux adolescents, ouais. était vraiment pensée par son créateur, Joss Whedon, qui heureusement maintenant est vraiment culte, donc on sait que c'est vraiment un grand auteur de série, mais il l'avait pensée pour justement produire une sorte d'éducation féministe, non seulement pour les jeunes filles, mais les jeunes garçons aussi, et c'est vrai qu'on a toutes sortes de garçons qui étaient fans de Buffy, cette petite jeune fille qui était capable de se battre contre les vampires. Même chose pour Game of Thrones, en réalité, même si c'est une série qui peut-être a un côté plus spectaculaire, c'est une série qui a vraiment voulu aussi élargir l'expérience des spectateurs, leur présenter des personnages handicapés extrêmement puissants, une petite jeune fille, Arya, qui a aussi une trajectoire de véritable grande héroïne, etc. Donc à chaque fois, il y a vraiment ces enseignements éthiques des séries, qui vont vraiment apprendre à chacun à progresser, à prendre de l'assurance. Mais il y a aussi même des enseignements tout court, des enseignements factuels, des enseignements médicaux en urgence, qui étaient quand même vraiment très, très exacts de ce point de vue-là. Et toutes ces séries qui nous font connaître en fait des milieux professionnels qu'on ne connaît pas, comme le milieu des croque-morts dans Six Feet Under. Et bien sûr, les séries qu'on appelle sécuritaire, qui nous représente vraiment l'univers de l'espionnage, et une série comme Le Bureau des Légendes, qui est quand même aussi une série très importante, et une série qui a cette ambition aussi d'éduquer le public à, d'une part, ce qui se passe dans vraiment le travail de renseignement, mais aussi, comme d'autres séries comme Homeland, ou des séries israéliennes qui veulent nous éduquer à la situation globale du monde et aux différents risques, pas seulement du terrorisme, des risques aussi pour la démocratie, qui menacent vraiment notre vie. Et donc, sur tous les plans, en fait, je crois que toutes ces séries, justement parce qu'elles ont un public large, ont une influence, un impact vraiment, vraiment important, et que c'est peut-être la source, en fait, aussi d'éducation, parmi les plus importantes que nous ayons, et donc il ne faut pas les sous-estimer.
Il y a un pouvoir de la fiction, Sandra Leger, il y a un pouvoir éducatif de la fiction, mais qui a un pouvoir paradoxal, parce que on va informer le réel à partir d'une fiction. Comment ça se passe? Comment c'est possible?
Alors ça, c'est vraiment cette question du statut même de la fiction, le fait de toute façon que ces fictions-là font partie de l'existence concrète des gens. On y passe des heures, en réalité. Donc il y a vraiment vraiment une sorte d'inscription aussi dans l'expérience, dans la vie, qui font qu'elles vont avoir une forme de réalité pour le spectateur. Ensuite, elles sont, si on prend Le Bureau des Légendes, par exemple, mais aussi Urgence ou À la Maison Blanche, les grandes séries avec ce type d'ambition, eh bien, elles ont elles-mêmes d'abord été extrêmement renseignées par donc des experts, par la réalité elle-même. Donc il y a vraiment cet aller-retour entre la série, donc la fiction, et le réel. Et on sait très bien aussi que beaucoup de séries ont elles-mêmes eu un impact, par leur influence sur les spectateurs, sans doute, ont eu un impact sur la réalité elle-même. On modifiait la perception. Même une série comme 24 heures chrono a influencé, bien que ce ne soit peut-être pas son but initial, à habituer les gens à voir un président noir. Ouais, donc il y a cette expérience-là. Une série comme À la Maison Blanche, dans ses dernières saisons, présentait un candidat aux élections américaines, puisqu'il devait succéder au grand héros de la Maison Blanche, Bartlett. C'est vrai qu'on est très très loin de la réalité actuelle. Et donc, ce personnage latino, des dernières saisons était en effet un candidat latino, d'ailleurs, Matt Santos. Ce candidat était inspiré en fait par le personnage même de Barack Obama, qui avait fait un discours extrêmement remarqué donc en 2004 à la convention démocrate. Donc en fait, il y a vraiment cette circulation. Il y a un épisode très fameux de la Maison Blanche où on a un débat donc entre justement les deux candidats Matt Santos et donc Vinick, son opposant républicain, qui aussi avait une autre classe que le républicain d'aujourd'hui, mais bon,
oui, qui est plus John McCain que
voilà, et donc avec un vrai partage des valeurs, et c'est un débat qui est d'un réalisme incroyable. En fait, on le verrait vraiment l'impression
je
de voir
qu'il a été diffusé en direct. Oui. C'était une espèce de performance sur la télé américaine. Gilles Verville, j'ai aussi l'idée
comme
que
comme à la fin de Tutsi, pardon. L'épisode en direct.
Il y a l'idée aussi que les séries donnent au fond à chacun les moyens de philosopher, voire nous mettre dans des situations d'empowerment. Hein,
ouais.
Comment ça fonctionne là aussi ? C'est-à-dire que ça nous délivre de la philosophie, ça nous délivre un mode d'emploi de la vie ?
Oui, alors c'est pas pareil. Philosophie, mode d'emploi de la vie, c'est pas tout à fait la même chose. Il faudrait carrément faire une émission, on fera volontiers sur qu'est-ce que la philosophie quand même, parce que voilà, aujourd'hui...
C'est un peu long, hein.
Non, mais parce que je trouve quand même qu'aujourd'hui...
En trois trilogies.
Avec ce qu'on appelle le développement personnel, on commence à mélanger pas mal de choses.
Ouais, ça dérive,
philosophie, psychiatrie, massage, enfin, voilà, ça commence à être, voilà, au nom du fait que les philosophies antiques, voilà. Mais effectivement, ça délivre. Oui, ça délivre. Alors, comment on peut s'inspirer d'un livre que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, moi. Ça devait être pour écrire mon premier tome de Star Wars, enfin c'est pas moi qui ai écrit Star Wars, hein, c'est George Lucas, mais je parle des livres. La psychanalyse du conte de fées de
Bettelheim,
voilà, qui explique qu'effectivement, plutôt que de faire de la morale à un enfant en lui disant ça c'est bien, ça c'est mal, faut pas faire ci, faut pas faire ça, le plus efficace c'est quand même de lui donner un personnage à la place duquel il voudrait se retrouver. C'est-à-dire que si le destin de ce héros est désirable, plutôt que celui du méchant, il va tout naturellement être amené plutôt à vouloir se comporter comme le gentil plutôt que comme le méchant. Voilà, donc il y a quand même quelque chose. Et je pense que ça fonctionne pour les enfants, mais je pense que les adultes, c'était la conviction de Platon. Alors quand il le disait, c'était un peu méprisant, mais que ce qu'il appelle le vulgaire, justement, la plupart des gens ont du mal à penser de manière complètement abstraite, comme ça, et qu'ils ont besoin d'images, d'histoires pour incarner ce qu'on essaye de leur montrer. Voilà. Et effectivement, ça va quand même plus vite d'illustrer un propos. D'ailleurs, l'auteur, le showrunner, soit lui-même tout à fait conscient. Hein. Moi, j'aimais bien la phrase de Duchamp que j'avais découverte dans une interview. L'artiste ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. C'est-à-dire que nous, quand on fait des bouquins de philo à partir de Star Wars, de Game of Thrones, de tout ce que vous voulez, je suis pas en train de prétendre que Lucas avait pensé à tout ça, qu'il voulait dire tout ça et que son intention était là. Bon, j'ai quand même lu beaucoup, beaucoup de making-of et sur existentialisme, par exemple, ou déterminisme. Il a des choses à dire, Lucas, hein, pour dire qu'il est les deux en même temps. Donc, ce qui va pas trop ensemble. Mais voilà. Mais effectivement, le storytelling, l'histoire, raconter des histoires. Moi, je dis ça à mes élèves quand je leur dis pour commencer une dissertation, prenez un exemple. Racontez une histoire. Voilà, je lui dis réel ou fictif, présent ou passé. Voilà. Bon, alors présent ou passé, ça vaut que pour les réels, hein, parce que les fictifs, ça se passe quand on veut. Mais voilà, l'histoire parle aux gens, ça peut résonner en eux. Voilà, plutôt que de leur dire ceci, c'est bien. Voilà, les enfants, on les éduque comme ça, le Père Noël, la petite souris, voilà. Et que même quand on est encore adulte, faut voir comment fonctionnent toutes ces choses-là, quoi. Voilà, même les téléréalités, voilà. Alors, c'est de la réalité, mais on dit scripted de reality, je crois. Donc, voilà, donc c'est de la réalité, mais là où ça n'en est pas, c'est que c'est écrit. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, quand même, qui est construite dans le but du propos qu'on veut montrer. C'est ce que disait Aristote, hein. La fiction, c'est quelque chose qui est plus ordonné que la réalité elle-même. Ce qui permet donc de mieux voir que dans la réalité ce qu'on voulait montrer. Parce que dans la réalité, il n'y a pas d'ellipse. Dans la réalité, si tu vis une histoire d'amour ou que tu as un procès qui t'attend, bah, faut que tu ailles faire pipi, faut que tu manges, faut que tu ailles au boulot.
Il n'y a pas un cut qui amène directement au procès.
Voilà. Alors que dans les films, par exemple, dans les séries aussi, tout sert la narration. Voilà, c'est ce que dit Aristote. C'est ce que disait Hegel en pensant sans doute à ça, en disant que l'œuvre d'art, dans l'œuvre d'art, offre la vérité de manière plus transparente. Voilà. C'est-à-dire que les choses sont, qui se passent dans la réalité sont plus compréhensibles, à la fois parce qu'il y a une histoire qui nous touche et à la fois parce qu'il y a comme ça une construction qui doit... Il disait Aristote, le meilleur moyen de produire l'émotion, c'est de construire les choses. Alors dans les séries, c'est une construction encore plus longue, mais ce qui est pas mal quand on... Parce que dans la réalité, il y a des choses qui se passent qui n'ont pas grand sens. Hein ? On va se dire à quoi bon, voilà, pourquoi Trump a-t-il été élu, c'est, on n'aura peut-être pas, voilà, pourquoi un gamin de 13 ans meurt d'une leucémie, voilà. Alors que dans une série ou dans un film, c'est le côté happy end, plus rationnel que dans la réalité, finalement, hein. Si on voit une scène, si on voit quelque chose, ou ne serait-ce qu'une porte qui s'ouvre, on se dit qu'il y a un sens. C'est-à-dire, le gars, il a pas filmé ça pour rien, voilà, hein. Et donc, ça nous permet d'essayer de le comprendre, quoi, voilà.
Sandra Leger, sur l'empowerment, oui, notamment des femmes, peut-être.
Ah, mais je crois que les séries ont vraiment joué un rôle très important. Alors, vraiment, d'abord dans l'histoire du cinéma et des séries, de ces médias, puisque les séries ont été vraiment précurseurs pour beaucoup d'éléments. D'abord pour la mise en visibilité, en effet, des femmes, des personnages de femmes, hein, puisqu'on en a quand même beaucoup plus tôt qui sont importants dans les séries. Il y en a toujours eu, hein, mais plutôt comme faire valoir. Hein, mais c'est vrai que c'est vraiment avec les séries qu'on a des femmes premier rôle, qu'on a Buffy, qu'on a Carrie Mathison, hein, qu'on a Killing Eve, Carrie Mathison dans Homeland. C'est vrai que là, les séries, parce qu'elles prennent le temps, peuvent permettre de consolider, renforcer un personnage féminin, normalement qui ne devrait pas en avoir besoin, mais pour justement lui donner cette place. Et c'est vrai que toutes les dernières saisons de Game of Thrones, tous les personnages vraiment les plus centraux, les plus visibles, les plus forts, étaient des femmes.
Oui, même si on avait... Il y a des femmes très puissantes, hein, Cersei... Ouais.
Voilà, Cersei, Arya. Ça, c'est quelque chose qui est venu des séries. Ensuite, vraiment, la visibilisation de ce qu'on appelle des minorités visibles, sauf qu'elles ne l'étaient pas du tout. Les Noirs, par exemple, dans The Wire, on a vraiment un très grand nombre de personnages noirs, et non pas un ou deux pour qu'on soit sûr de ne pas les confondre, mais vraiment tout un ensemble. Dans Orange is the New Black, qui est une série de Netflix, hein, qui met en scène des femmes dans une prison. Il y a aussi beaucoup de femmes noires. Et puis, bien sûr, maintenant, il y a des séries comme plus récentes, comme Lovecraft Country, ou qui sont centrées complètement sur les noirs. Et puis, il y a aussi les minorités sexuelles, hein, qui ont été visibles dans les séries bien avant les films. Alors bien sûr, maintenant il y en a dans les films, mais c'est toujours le token, hein, donc la personne un peu pour représenter la catégorie, alors que les séries, justement parce qu'elles sont plus nombreuses, justement parce qu'elles prennent le temps, peuvent vraiment présenter toute la diversité des personnages homosexuels que l'on a dans Elleworlds, par exemple, qui était une série sur les lesbiennes vraiment classique, hein, qui a aussi joué un grand rôle, donc d'empowerment des lesbiennes. Et donc là, on a vraiment pas seulement l'empowerment des femmes, mais de toutes les catégories qui, en réalité, étaient sous-représentées au cinéma. Et donc là, les séries ont vraiment joué ce rôle très important, qui est un rôle pas seulement de visibilité à l'écran, mais évidemment du spectateur, des publics qui se sentent en fait représentés à l'écran. Donc ça, c'est crucial, et je crois que de nos jours, beaucoup de séries récentes sont quand même, vont vraiment dans ce sens-là de façon très 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 massive.
Bon, le dévoilement du monde social. Merci à tous les deux. Cette émission s'achève. Elle était trop courte. Je vous remercie chaleureusement, Sandra Leger et Gilles Verviche, d'avoir été avec nous aujourd'hui déjà. Alors, je rappelle le titre de l'ouvrage de Sandra Leger, Nos vies en série, philosophie morale d'une culture populaire. C'est sorti chez Climat en 2019. Et puis l'ouvrage de Gilles Verviche, Star Wars, Le retour de la philo, la saga décryptée 2. Il y avait deux sous-titres aux éditions Le Passeur en 2019. Merci à Arnaud, à la réalisation. Ce programme sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. À bientôt.